Vous écoutez RTL.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
Merci Manuel Valls d'être resté avec nous pour dialoguer avec les auditeurs d'RTL avant de leur donner la parole dans un instant. Une question qui était présente dans l'ensemble de nos éditions ce matin et qui préoccupe beaucoup de personnes. Que peut-on faire et que peut faire plus précisément l'État pour STX et les chantiers de Saint-Nazaire ?
C'est bien sûr un dossier que j'ai beaucoup suivi comme Premier ministre. L'entreprise, vous le savez, dispose, il ne faut jamais l'oublier, d'un carnet de commandes, 14 paquebots, lui assurant une pleine charge jusqu'en 2025. Mais il faut préparer l'avenir. L'industrie, vous le savez, elle se construit sur le temps long et il faut investir dans cet outil industriel. C'est pourquoi il nous semblait important de privilégier un repreneur européen. Un industriel susceptible de faire avancer l'entreprise, qui connaît bien le secteur.
Mais en aussi, l'occurrence, l'Italien qui est désigné.
Tout le territoire sur lequel a été implanté. Oui, c'était en effet ce repreneur qui était visé, avec l'accord des élus du territoire et des syndicats. Mais maintenant, il faut un certain nombre de garanties. Je crois que Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie, est sur place aujourd'hui même à Saint-Nazaire. Vous savez que l'État est minoritaire dans cette entreprise, mais a un rôle très important. On peut adosser aussi également d'autres partenaires qui ont un lien direct avec l'État. C'est en discussion. Le plus important, c'est d'asseoir une stratégie, un outil industriel dans la durée et évidemment sur le territoire de Saint-Nazaire.
Donc vous dites aux ouvriers qui peuvent s'inquiéter aujourd'hui, on est a priori en train de prendre la meilleure solution, je vous ai compris.
L'État, sa responsabilité, c'est pour ça qu'il ne faut pas nationaliser, mais sa responsabilité en même temps, et c'est ce que je défends, y compris dans mon projet, un État stratège sur le plan industriel, qui soutienne la réindustrialisation dans notre pays, mais qui soutienne aussi le numérique, les start-up, les PME, mais l'État est le gardien du long terme. Et donc, toute la discussion que nous aurons avec ce partenaire italien, c'est de garantir le long terme. En tout cas, l'État, lui, sera pleinement engagé dans ce dossier pour le faire réussir et que pour les commandes en cours et à venir soient bien produites en France. Nous avons besoin d'industrie. Vous savez, on me dit souvent qu'il n'y a pas d'ouvriers dans ce pays. Ça n'est pas vrai. Beaucoup d'ouvriers qui ont parfois eu le sentiment d'être délaissés. Là, nous voyons bien sur ce dossier comme sur d'autres qu'il y a là une réussite. Mais il faut maintenant la conforter.
Et des auditeurs qui veulent vous interroger au 3210 sur RTL et en direct. Le premier d'entre eux s'appelle Laurent. Il nous appelle du département des Yvelines. Bonjour Laurent. Manuel Valls vous écoute.
Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour Monsieur Valls.
Bonjour.
Bonjour. Ma question va être simple. Vous avez été Premier ministre. Vous aviez donc des pouvoirs. Vous êtes un homme de conviction. Vous êtes en train de les expliquer. Vous êtes en train de dire ce que vous seriez susceptible de mettre en place. Qu'est-ce qui vous a empêché en tant que Premier ministre de pouvoir mettre des choses en place et qu'elles se fassent instantanément, que vous pourrez faire demain si vous étiez président de la République, sachant que vous aurez également des gens qui seront contre vous, vous aurez des gens qui seront des opposants. Qu'est-ce qui vous permettra demain de mettre en place des valeurs que vous n'avez pas pu mettre en place alors que vous en aviez le pouvoir ?
Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur, moi j'assume ce qui a été engagé depuis 2012. Que j'ai fait comme ministre de l'Intérieur, ce que j'ai accompli comme Premier ministre, avec des réussites, avec des manques, avec des échecs, bien évidemment. C'est ainsi, c'est la vie. Personne d'entre nous n'est parfait, nous sommes sous le jugement des Français. Mais être président de la République, être chef de l'État, c'est autre chose. On est élu directement par le peuple. On incarne la France. Et c'est pour ça que mon projet commence d'abord par les questions du monde et par les questions européennes. Et si nous ne refondons pas l'Europe, et c'est ça que je veux engager d'abord avec l'Allemagne, si on ne définit pas des frontières claires pour l'Union européenne, alors le projet européen va se disloquer. Et fort du soutien du peuple de l'élection, si je suis bien sûr élu, alors à ce moment-là, sur la base d'un projet clair, on aura dit les choses avant aux Français, on peut avancer.
Et puis il faut le faire. Le mandat présidentiel, c'est mieux que le 49-3 ?
Mais ne confondons pas les choses. Le mandat présidentiel, c'est une incarnation. C'est le sens que l'on donne à un pays. Ensuite, il faut gouverner. C'est pas un mandat omnipotent. Le président de la République a beaucoup de pouvoir. Il faut garder ses pouvoirs d'ailleurs, c'est pour ça que les Français tiennent à l'élection au suffrage universel du chef de l'État. Mais il doit être capable de gouverner en écoutant la société, en favorisant le dialogue social, en respectant ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les partenaires sociaux, les syndicats, les associations, en impliquant davantage les Français, en respectant aussi le Parlement. Mais il faut que les choses soient claires dès le début, que le projet présidentiel soit clair dès le début, pour que ce dialogue soit facilité et soit le plus constructif possible.
Eh bien, le Parlement, parlons-en justement, Manuel Valls. Merci, Laurent, de nous avoir appelé depuis Château dans les Yvelines. C'est Jordan qui va vous interroger. Il nous appelle de Haute-Saône. Bonjour, Jordan, on vous écoute.
Bonjour, Escalvi. Bonjour, Manuel Valls.
Bonjour, Jordan.
20 ans.
Tout d'abord, Manuel Valls, permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2017 en espérant qu'elle soit celle qui verra votre victoire à la présidentielle.
Ça commence bien.
Une question sur votre projet concernant les institutions et notamment la réduction du nombre des parlementaires. C'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a 577 et 348 sénateurs, mais pouvez-vous nous préciser combien de parlementaires vous souhaitez supprimer, combien de députés en moins et combien de sénateurs en moins par rapport à aujourd'hui? Merci, bon. Manuel Valls.
Merci et merci pour la bonne année et pour votre soutien. J'aurai l'occasion évidemment dans les prochaines semaines de le préciser. Il faut toujours, pour que chacun ait bien ça en tête, garder un équilibre entre le nombre de députés et le nombre de sénateurs. C'est important pour pouvoir réformer la Constitution quand les parlementaires se réunissent en congrès. Il ne faut pas oublier non plus que les députés sont élus dans le cadre de circonscriptions, donc il faut que celles-ci restent quand même à taille humaine. Je pense que c'est autour de 400 députés qu'il faut réduire aujourd'hui l'Assemblée nationale, en leur donnant aussi les moyens, notamment en collaborateurs, pour pouvoir accomplir leur mission essentielle. Et les missions du Parlement, c'est d'abord le contrôle de l'exécutif et l'évaluation de la loi. Ce n'est pas uniquement voter des lois, c'est le contrôle de l'exécutif et l'évaluation de la loi.
Moins de députés, au nombre de 400, c'est le chiffre que vous nous citez.
Je crois que c'est le bon.
J'entends bien. En revanche, mieux renforcé.
Mieux renforcé, comme tous les grands parlements modernes, pour que le Parlement, en s'appuyant aussi sur les travaux de la Cour des comptes, en ouvrant le Parlement davantage aux citoyens, comme nous l'avons fait pour le vote sur la République numérique. Il faut utiliser tous les réseaux sociaux, les plateformes numériques, l'appétit des Français de participer au débat.
Et les sénateurs restent à 348 ?
Non, il faudra baisser le nombre de sénateurs.
Là aussi, on veut bien un chiffre, même approximatif.
À des proportions, puisque, encore une fois, l'équilibre entre l'Assemblée nationale et le Sénat doit être respecté. Ça doit être un peu plus de 200.
Ça ferait aux alentours de 600 parlementaires. Merci de cette réponse précise et merci à Jordan de nous avoir appelés. C'est agréable de savoir qu'on a des auditeurs de 20 ans qui s'intéressent aussi à notre vie politique.
Il y en a beaucoup, vous savez, Nicolas Domenac le disait il y a un instant, il y a une très grande passion politique dans ce pays. Parfois, ce sont les politiques qui ne sont pas à la hauteur de la passion de nos concitoyens, mais il y a la passion, il y a l'envie de participer et les Français savent qu'ils ont leur destin en main au printemps prochain.
Justement, Alain va vous interroger lui aussi, il nous appelle de Paris. Bonjour Alain, Manuel Valls vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Valls.
Bonjour Alain.
Bonjour Monsieur Calvi. Moi, je vous avoue que vous êtes un homme moderne, vous êtes un homme mesuré, modéré, intelligent. Et moi, je suis assez choqué, en fait, par vos mots envers le programme de François Fillon, notamment la baisse sur le mot purge que vous attribuez à cette baisse de 500 000 fonctionnaires, toutes fonctions publiques confondues, hein. Toutes fonctions publiques confondues. Pensez-vous pas que c'est une mesure qui est justement mesurée et qui est plutôt saine de baisser de 9%, c'est simplement 9% sur 5 ans et donc de moins de 2% par an, le nombre de fonctionnaires en fait, toutes fonctions publiques confondues, donc avec les collectivités locales, si on n'arrive pas à baisser le nombre de fonctionnaires de moins de 2% par an, moi je sais pas, je veux dire, où est l'ambition d'un homme qui veut devenir président de la République?
Je précise que vous êtes chef d'entreprise. Excusez-moi de vous avoir interrompu et je propose à Manuel Valls de vous répondre parce que la question est parfaitement claire.
Moi, je respecte François Fillon. Je respecte aussi la belle primaire de la droite qu'il a désignée parce qu'elle a été utile au pays et j'espère que nous connaîtrons aussi une belle primaire avec beaucoup d'électeurs qui viendront les 22 et 29 janvier prochains désigner celui qui, demain, pour la gauche, peut être président de la République.
Mais on ne peut pas vivre avec moins de fonctionnaires dans notre pays ? C'est ça, finalement, la question.
Moi, je m'engage. Je vais répondre étape après étape dans cette campagne. Mais si je suis désigné dans cette primaire, j'ai un but. C'est d'être au deuxième tour face à François Fillon. Je ne suis pas de ceux qui, par cynisme, souhaiteraient me retrouver face à l'extrême droite. Et je ne pense pas qu'à droite, je l'espère, il y ait aussi cette idée de cynisme de se retrouver face à l'extrême droite pour l'emporter. Parce qu'un pays comme la France, deuxième économie de l'Union européenne, cinquième puissance mondiale, avec une extrême droite qui fera un score majeur, qui peut aussi l'emporter, et c'est ce que je reproche à François Fillon, c'est que son programme pour les fonctionnaires, comme pour la protection sociale, ouvre les vannes pour l'extrême droite. Au fond, les catégories populaires, les fonctionnaires des catégories C et B, les personnes âgées qui auraient le sentiment qu'ils ne seraient plus soignés demain dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux, vont se poser cette question. Qui va nous protéger de ce programme particulièrement dur? Et moi, je veux que ça soit la gauche. Je veux les protéger. Je veux protéger ces fonctionnaires qui participent de l'intérêt général. Je veux protéger les personnes âgées qui aujourd'hui ont peur de ne pas être soignées et remboursées. Je veux protéger ces gens qui cherchent encore pendant ces vacances de Noël un médecin et qui sont obligés d'aller aux urgences à l'hôpital. C'est pour ça que je propose aussi, par exemple, d'en finir avec le numerus clausus pour les études de médecine. Et ça, voilà, ça c'est une révolution dans notre système de santé. Je fais de la santé un projet majeur.
Or, on a compris pour la santé.
Le programme de François Fillon, et je répète, est en effet une purge, un démantèlement comme on n'a jamais connu de notre modèle social. Il doit l'assumer. Il s'est fait élire sur ce projet par les électeurs de droite. Donc devant les Français, il ne peut pas en changer. Et oui, on peut vivre avec moins de fonctionnaires, bien évidemment. Comme Premier ministre, nous avons fait baisser le nombre de fonctionnaires dans un certain nombre d'administrations, puisque nous avions donné la priorité à l'éducation et à la sécurité. À la fin du quinquennat de François Hollande, cependant, il y aura eu une augmentation de l'emploi public. Pourquoi ? Parce que non seulement nous avons respecté nos objectifs, je pense aux 60 000 postes d'enseignants, c'est pour ça qu'aucune politique d'austérité n'a été menée dans ce pays, contrairement à ce que disait hier Arnaud Montebourg à votre micro matin. Aucune, parce qu'une politique d'austérité, c'est moins de fonctionnaires et c'est la baisse des salaires des fonctionnaires, alors que nous les avons maintenus, voire revalorisés, avec le dégel du point d'indice et la revalorisation des catégories C, B et aussi du salaire des enseignants, des professeurs, des gendarmes et des policiers. Donc ça n'a rien à voir avec l'austérité, mais voilà, l'emploi public a augmenté. L'emploi public a augmenté dans notre pays parce qu'il a fallu mettre sur le terrain plus de policiers, plus de gendarmes, plus de militaires. Donc j'assume, si vous voulez, c'est un débat. J'assume, non pas par idéologie, le fait que pour nous protéger, protéger les Français, il faudra continuer. Il faut plus de policiers, plus de gendarmes, plus de militaires, plus de juges, plus de greffiers. J'assume que pour être une grande nation éducative, il faut des moyens pour l'école, l'université et la recherche. Je l'assume, ça ne veut pas dire pour autant que dans d'autres administrations, on ne puisse pas faire mieux avec moi et qu'on ne puisse pas non plus du côté de l'État transférer davantage de compétences aux collectivités territoriales.
Par exemple à Bercy, enfin je vous le suggère, tout simplement parce que la question qui vient concerne l'exil fiscal et c'est Adrien qui va vous la poser. Bonjour Adrien.
Bonjour Monsieur Valls, bonjour Monsieur Calvi.
Bonjour Adrien.
Donc ma question porte sur l'exil fiscal des grosses entreprises de la numérisation. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez faire concernant cet exil, comme les entreprises comme Amazon, Google, Uber, Airbnb, qui payent une grosse partie de leurs impôts aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Irlande, soit donc un gros manque à gagner pour la France.
Et si je peux me permettre, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose ?
Oui, on peut faire quelque chose et l'Union européenne vient de le démontrer avec le choix qui a été fait concernant l'Irlande. Donc ça veut bien dire qu'on peut, on peut trouver des solutions. Et c'est évidemment au niveau européen. Si l'Europe veut retrouver du sens, il lui faut des frontières affirmées. Pour ça, j'ai dit par exemple que la Turquie est un grand pays, éprouvé encore par le terrorisme, qui est un partenaire. Mais la Turquie ne peut pas et ne sera pas membre de l'Union européenne. Il faut cesser de lui mentir. Mais il faut aussi lutter contre le dumping social. Je pense notamment à la question des travailleurs détachés. Il faut revoir la directive. Et le dumping fiscal. C'est ce qui vient d'être dit par cet auditeur. Donc il faut que les règles de l'Union européenne soient clairement appliquées. Ça a commencé, ce qui est plutôt une bonne chose avec la commission Juncker. Il faut continuer. L'Europe doit être moins naïve face à la mondialisation. Et la mondialisation, comme l'Europe, doit être au service des peuples. Parce que sinon, c'est encore une fois l'idée d'Europe qui est aujourd'hui mise en cause par nos concitoyens.
Oui, mais à l'échelle européenne, avez-vous répondu à Adrien ? On va prendre un dernier auditeur qui s'appelle Stéphane et qui nous appelle du département du Val-de-Marne. Bonjour Stéphane.
Bonjour Monsieur Cali, bonjour Monsieur Valls.
Bonjour.
Une question simple, je suis un travailleur indépendant. Pensez-vous laisser le libre choix aux travailleurs indépendants de quitter le RSI sans sanction, alors qu'en l'Union européenne demande simplement le libre choix de choisir son mode de santé pour les indépendants ? Juste nous laisser le choix d'y rester ou de quitter ?
Question simple, réponse courte.
Il va falloir faire évoluer. Nous avons fait beaucoup pour le RSI, mais je sais que pour les indépendants, pour les commerçants, il reste quand même un problème. Donc moi, ce que je veux, c'est donner les mêmes droits sociaux aux indépendants et aux commerçants. Je pense que ce pays, sa force, c'est toutes ces PME, ces TPE, mais aussi ces commerçants, ces indépendants qui sont la sève de notre économie. Ce sont eux qui créent aujourd'hui de l'emploi, donc il faut leur donner plus de souplesse, davantage de passerelles, les aider, y compris pour leur propre protection sociale.
Souhaitez-vous que, ce sera la dernière question, souhaitez-vous que François Hollande sorte de son silence et vous soutienne, je dirais, ce qui pourrait paraître logique, étant donné que vous avez été son Premier ministre pendant plusieurs années?
Personne ne peut douter des liens affectueux, des liens entre François Hollande
et... Vous vous êtes parlé par avec le Canard Enchaîné. Selon le Canard Enchaîné, vous êtes, il y a un grand froid entre vous depuis...
C'est une plaisanterie, évidemment. Nous nous sommes parlé il y a quelques jours uniquement pour nous souhaiter la bonne année. Voilà. J'ai salué, je lui ai dit combien j'avais apprécié la dignité de son intervention devant les Français.
L'affection, c'est bien. L'épreuve d'affection, c'est mieux.
François Hollande a décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Et de ne pas passer par la primaire qui plus est. C'est pas pour se remettre dans le débat sur la primaire. Et ne pensez pas un seul instant que François Hollande ne suit pas cette élection primaire avec intérêt et qu'il ne souhaite pas la victoire de celui qui peut représenter celui qui a assumé les responsabilités du pouvoir, qui assume le bilan et qui ouvre d'autres choix. Mais laisser au président de la République le soin de s'exprimer, il le fera après la primaire, sa parole comptera. Mais moi, je suis aujourd'hui un homme libre, je m'engage pour l'avenir, je m'engage pour les Français, et je veux incarner cet esprit français.
Et vous êtes donc...
Cette République forte et cette France juste. Et je le dis d'ailleurs à votre chroniqueur, Pascal Pro, qui est un professionnel, comme on dit, et dire que la République forte et la France juste, ça sent la naphtaline, c'est faux. C'est qu'un candidat à la présidence de la République, un homme de gauche, un républicain avec le parcours qui est le mien, décide d'incarner pleinement cette République forte, car on en a besoin. Je pense bien sûr à la laïcité, ou à l'éducation, ou à la protection des Français. Et une France juste, parce que le sentiment d'inégalité est puissant dans notre pays, ça n'est pas de la naphtaline. C'est ça qui est profondément moderne aujourd'hui. C'est d'incarner la République forte et la France juste. Il y a un bel esprit français, donc il ne faut pas le... Faut pas s'en moquer, bien au contraire, faut l'exalter.
Les chroniqueurs sont là pour chroniquer.
Ben, je le sais bien, voilà. Et la France et politique sont là parfois pour
vous m'avez compris.
Chroniqueurs, mais avec humour, avec beaucoup de respect, parce que j'aime beaucoup Pascal Pro, quand il parle de tous les sujets, et bien sûr, quand il commente le sport, ce qu'il a fait avec beaucoup de talent.
Merci. Il peut échapper à son domaine aussi, de compétences habituelles.
Parler de sport.
J'ai bien compris, vous venez de nous parler de sport, et ça va arriver d'autant plus que vous restez avec nous pour suivre la revue de presse, et après écouter avec plaisir Laurent Gérard. Merci Manuel Valls d'être avec nous ce matin sur RTL.